Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, Gaza risque d'être inhabitable d'ici 2020, selon le rapport de la CNUSED. 80% des migrants passant par la Macédoine sont des Syriens, un tiers des femmes et des enfants, selon l'UNICEF. L'UNESCO condamne la destruction d'un temple à Palmyre, en Syrie. En dossier, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU condamne la reprise de la peine de mort au Tchad. Enfin, dans Voix de femmes, il sera question de la gestion des eaux frontalières. Si les tendances économiques actuelles se poursuivent, la bande de Gaza pourrait devenir inhabitable dans 5 ans. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de la CNUSED qui dénonce l'impact des 3 opérations militaires qui se sont déroulées à Gaza entre 2008 et 2014. Opérations qui ont ravagé les infrastructures, détruit les capacités de production et d'exportation et accéléré le processus de dédéveloppement des territoires palestiniens occupés. Outre la levée du blocus, la CNUSED appelle Israël à mettre un terme au gel du versement des recettes fiscales de la Palestine. Les précisions de Marc Mahmoud El-Khafif, chef du programme d'assistance au peuple palestinien de la CNUSED.
C'est très important car cela représente 75% des revenus publics palestiniens. Cela permettrait de payer l'ensemble des salaires de l'autorité palestinienne. Si l'autorité palestinienne ne peut pas collecter 75% de ses revenus pendant un tiers de l'année, comment peut-elle diriger l'économie? Dans les faits, le gouvernement n'a pu payer que 60% des salaires des fonctionnaires publics et il n'a pas pu payer le secteur privé qui fournit à l'autorité palestinienne les fournitures nécessaires pour l'économie. Cela veut dire que l'économie se ralentit. Aucun argent n'est injecté dans l'économie. Les perspectives pour 2015 sont donc très sombres.
Le nombre de femmes et d'enfants qui transitent par l'ex-république yougoslave de Macédoine pour fuir la violence dans leur pays d'origine a triplé durant les 3 derniers mois. A annoncé ce mardi l'UNICEF, 80% de ces réfugiés sont originaires de Syrie, 5% de l'Afghanistan et 5% sont irakiens. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'active pour leur venir en aide. Il a notamment envoyé des réservoirs d'eau ainsi que des tentes à un centre d'accueil près de Skopje. Les tentes recevront les enfants en transit et leur donne un espace qui est le leur, tandis que les réservoirs permettront au centre de fournir de l'eau potable aux personnes qui y transitent. Explication de Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF.
Beaucoup de familles ont été sur la route pendant des mois. Ils ont affronté une chaleur parfois extrême. Certains ont un peu plus d'argent que d'autres. Certains ne possèdent que les vêtements et les chaussures qu'ils portent. Ils sont physiquement épuisés. Nous sommes sur le terrain, nous recueillons beaucoup de témoignages. Certains ont besoin, désespérément besoin d'un endroit pour se reposer. Beaucoup souffrent de déshydratation, de cloques, de froid, de diarrhée, de coups de soleil. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires sur le terrain, notamment du HCR, ces familles actuellement à cette frontière ont besoin de plus d'eau et d'un meilleur accès à des installations d'assainissement et d'hygiène. Certaines ont même besoin d'assistance médicale.
La directrice générale de l'UNESCO a exprimé son profond désarroi en condamnant la destruction du temple de Bel à Palmyre en Syrie, l'un des plus importants monuments religieux du 1er siècle en Orient pour sa conception unique. Selon Irina Bokova, la destruction de Palmyre constitue un crime intolérable contre la civilisation, mais n'effacera jamais 4500 ans d'histoire. Pour la directrice, il est fondamental d'expliquer l'histoire et la signification des temples de Palmyre qui incarnent les plus hautes aspirations de l'humanité. Les explications de Giovanni Boccardi, chargé des urgences culturelles au sein de l'UNESCO.
Il s'agit d'un des plus importants sites archéologiques du Moyen-Orient. Les vestiges qui ont été détruits datent du 1er siècle après Jésus-Christ et ils reflètent des influences culturelles hellénistiques et romaines dans les aspects architecturaux. Mais en même temps, ils sont inspirés aussi par la culture locale. Et à Palmyre, il y a une complexité d'influences culturelles qui sont visibles, par exemple, dans les traits des visages des habitants de Palmyre qui sont gravés dans le tombeau qui sont éparpillés un peu tout autour de la ville.
En RDC, les ONG s'impatientent de l'ouverture du procès qui oppose le procureur de la Cour pénale internationale à l'ancien chef milicien Bosco Ntaganda. Procès qui doit s'ouvrir demain, mercredi 2 septembre, à La Haye, aux Pays-Bas, pour des crimes commis en Ituri. C'est l'unité de sensibilisation de la CPI en RDC qui l'a annoncé lundi aux médias de Bounia. Les ONG des droits de l'homme de l'Ituri plaident pour la célérité de ce procès afin que les victimes, qui ont longtemps attendu, soient remises dans leurs droits. Martial Kiza.
Ces premières audiences seront consacrées aux déclarations du bureau du procureur, suivies de la défense et des représentants légaux des victimes. Plus de 8000 éléments de preuve seront présentés par le procureur. Pour assurer un procès équitable, l'accusé sera assisté des avocats. Margot Tedesco précise que ces audiences ne seront pas transmises en direct.
Il y a eu des problèmes techniques. C'est pour ça que nous avons décidé de relayer les résumés d'audience à travers les radios communautaires.
Les organisations de défense des droits de l'homme saluent les débuts de ces procès. Pour Justice Plus, par exemple, l'ouverture de ces audiences est un signe d'espoir pour plus de 2500 victimes qui attendent des réparations suite aux préjudices subis. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Kapi.
Et puis, deuxième jour de la quatrième conférence des présidents de parlement qui se déroule au siège de l'ONU à New York. Les 180 dirigeants de parlement présents se penchent non seulement sur les moyens de surmonter les obstacles à la paix et à la démocratie, conflits, terrorisme, migration, discrimination et changement climatique, mais aussi sur le rôle des représentants dans le nouvel agenda de développement et la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Pour le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chungong, il s'agit d'une occasion historique pour les parlementaires.
Ce nouvel agenda de développement qui sera adopté sera l'occasion pour le Parlement de se montrer capable de représenter les populations dans tous les domaines. Et le mot-clé, c'est le bien-être des populations. Il ne s'agit pas de développement, de la croissance en tant que telle, mais il s'agit d'un développement d'une croissance porteuse de bien-être pour l'ensemble de l'humanité. Il ne faut pas, comme on a dit, qu'il y ait des gens qui sont laissés pour compte. Il faut que tout le monde puisse y trouver son compte.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec l'ONU qui regrette la reprise de l'imposition de la peine de mort au Tchad. Cette réaction fait suite à l'exécution samedi de 10 personnes qui avaient été condamnées à mort la veille dans le cadre de l'application d'une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme. Une loi adoptée par le Parlement national tchadien le 30 juillet de cette année. Avant samedi, le Tchad n'avait exécuté aucune personne depuis 2003. Pour en savoir plus, Isabelle Dupuis a contacté Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
C'est une grosse déception pour nous, d'autant que les signaux que nous avions reçus les derniers temps, et notamment l'année dernière, étaient plutôt positifs en termes d'abolition de la peine de mort, puisqu'en septembre 2014, le gouvernement avait annoncé un nouveau code pénal qui allait abolir la peine de mort et qui avait été approuvé en Conseil des ministres. Nous sommes donc extrêmement déçus par ce dernier développement.
Est-ce que vous avez plus de détails sur la situation politique ? Qu'est-ce qui a fait que d'un côté, il n'y a pas si longtemps que ça, le gouvernement semblait tendre vers une abolition de la peine de mort et tout d'un coup, il y a ce changement de cap.
Manifestement, les attaques qui ont eu lieu à N'Djamena, qui ont fait beaucoup de victimes en juin et en juillet 2015, ont sans doute pesé lourd. Et d'ailleurs, le 30 juillet, c'est le Parlement national qui a adopté cette nouvelle loi sur le terrorisme et qui a introduit la peine de mort. Donc, il y a clairement un lien entre ces événements et cette décision de recourir à la peine de mort. D'après les informations que nous avons obtenues sur cette nouvelle loi, elle prévoit la peine capitale pour toute personne qui, à titre personnel ou en coaction, commettrait des actes ou une menace qui pourrait causer la mort, mais aussi mettre en danger l'intégrité physique d'une personne, causer des dommages corporels ou matériels, même des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement, au patrimoine culturel. Donc vous voyez que c'est une nouvelle loi qui a une terminologie extrêmement vague de la définition du terrorisme, ce qui nous inquiète également parce que vu qu'elle prévoit la peine de mort, elle met beaucoup de personnes devant le risque d'être exécutées sous ces charges de terrorisme.
Et que sait-on sur les personnes qui ont été exécutées ?
sait, c'est que ces personnes ont été jugées, d'après nos informations, par la session criminelle de la chambre spéciale, et c'était les auteurs présumés donc de ces attaques terroristes perpétrées en juin et juillet 2015 dans la capitale. Parmi les charges dont elles étaient accusées, il y avait association de malfaiteurs, assassinat, destruction de substances explosives, faux usage de faux, détention d'armes. Nous n'en savons malheureusement pas beaucoup plus parce que nous n'étions pas physiquement présents lors de ce procès et donc nous ne sommes pas en mesure de vous donner plus d'informations sur le respect des procédures légales, si ces personnes avaient des avocats présents, s'ils ont pu faire appel de cette condamnation à mort. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'éléments d'information à ce stade pour vous confirmer ces informations.
Mais sait-on si elles étaient affiliées avec un groupe terroriste particulier ?
Alors, ces personnes étaient clairement accusées d'appartenir à Boko Haram.
Le Tchad avait accepté en 2014 les recommandations formulées lors de son examen périodique universel, des recommandations qui appelaient à l'abolition de la peine de mort. Donc, dans ce type de situation où la peine de mort est ensuite appliquée, que va-t-il se passer au point de vue diplomatique par rapport aux relations entre l'ONU et le Tchad ?
Nous allons continuer notre discussion avec le gouvernement tchadien pour leur proposer d'introduire un moratoire sur la peine de mort et puis à terme d'abolir la peine de mort. Il faudrait pour cela que le Tchad adopte le deuxième protocole sur les droits civils et politiques. C'est donc une autre étape à franchir et nous avons également demandé à ce que les autorités tchadiennes revoient cette loi antiterroriste qui a été adoptée au mois de juillet.
Voix de femme.
Cette semaine, dans Voix de femme, Francesca Bernardini nous parle de l'eau. La secrétaire de la Convention sur l'eau de la Commission économique de l'Europe aux Nations Unies a récemment participé à la semaine annuelle de l'eau qui s'est tenue à Stockholm, l'occasion pour Tigge Schifferau de lui tendre le micro. Elle revient sur cette convention qui a trait à la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et les lacs internationaux, thème d'une importance particulière puisque 50% des cours d'eau dans le monde sont partagés avec d'autres pays riverains.
Ce thème a été très important à Stockholm cette année parce que, disons, du point de vue politique, il y a eu une percée avec le proposé ODD sur l'eau parce que pour la première fois depuis 1992, l'agenda 21, il y a dans un test négocié des Nations Unies un clair appel à l'importance de la coopération transfrontière. Dans les dernières 20 années, ce thème a été très difficile de trouver un consensus au sein des Nations Unies. On n'avait jamais trouvé une formulation consensuelle et le fait que dans l'ODD sur l'eau, il y a une cible qui fait appel à la coopération, donc c'est vraiment une percée politique. Ça démontre combien l'importance de la coopération est maintenant reconnue. On retrouve souvent dans les journaux des alertes, les guerres de l'eau, les risques posés par la compétition sur les ressources qui sont effectivement très forts. Aussi, le dernier rapport du World Economic Forum cite l'eau et les risques de conflits liés à l'eau comme les risques au plus haut qui ont le plus grand possible impact. Donc il y a une augmentation de conscience sur l'importance de la coopération. La Convention sur l'eau a été adoptée en 1992 en tant que cadre régional, essentiellement pour la région de la Grande Europe. Sur la base de son succès et de son utilité pour promouvoir la coopération dans la région européenne et aussi pour promouvoir des échanges au niveau global. Et cette convention a un cadre décisionnel avec son organe de plus haut niveau qui se réunit tous les 3 ans. Et la prochaine réunion aura lieu en novembre de cette année. Et cette réunion, qui aura lieu à Budapest, va marquer la transition de la convention d'un cadre régional à un cadre global.
Donc cette convention donc sera amendée à la veille du sommet de la COP21. Est-ce que ça a une incidence sur cette conférence ?
Exactement. C'est clair que aussi pour ce qui concerne l'adaptation au changement climatique qui se manifeste surtout à travers l'eau, la coopération transfrontière est fondamentale parce que des mesures unilatérales d'adaptation comme par exemple construire un réservoir pour avoir plus de réserves d'eau pour combattre une grandissante sécheresse peuvent avoir des effets néfastes sur d'autres pays riverains. Et donc, depuis 2006, dans le cadre de la Convention, on a tout un programme qui promeut et soutient la coopération transfrontière dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et vis-à-vis de la COP21, effectivement, il y aura tout un débat en novembre à notre réunion des parties sur comment la Convention peut être un outil pour aider les pays à achever leur engagement engagements qui ont été pris au niveau global cette année. Dans tous ces cadres, la coopération sur l'eau au niveau transfrontière sera importante parce qu'il sera impossible d'obtenir une réduction des risques des désastres, une adaptation et aussi une réduction des émissions des gaz de serre et la réalisation des ODD sans une coopération sur toutes les rivières, lacs et eaux de source partagées qui représentent, il faut le savoir, il faut s'en rappeler, plus de 50% de nos ressources en eau. La plupart des pays partagent des eaux avec leurs voisins.
Et c'est avec Francesca Bernardini que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.